marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça vaut pas la peine d'en faire.
Que dit aujourd'hui le nom d'Ambroise de Milan ?
En ce temps-là, on manda de Milan au préfet de Rome de procurer à cette ville un professeur de rhétorique. Son voyage serait assuré par l'État. Je demandai ce poste. Si Mac, alors préfet de la ville, me proposa un sujet de discours, je satisfis à l'épreuve et il m'envoya à Milan. Arrivé dans cette ville, j'allais voir l'évêque Ambroise, connu du monde entier comme une âme d'élite. Cet homme de Dieu me reçut paternellement et se réjouit de ma venue avec une charité convenable à un évêque.
Les confessions de saint Augustin. Nous sommes à la fin du IVe siècle, dans cette période clé où le temps bascule de plus en plus vite. Jeune professeur de rhétorique, Augustin est venu à Milan. Il y écoute la prédication de l'évêque de la ville, Ambroise. Surtout, il voit la longue file des fidèles qui viennent le consulter et dans sa basilique, le peuple faire corps avec lui, priant et chantant. Cette excitation du peuple tout entier va échauffer la tiédeur spirituelle d'Augustin. La rencontre des deux hommes, telle qu'elle est racontée, inventée dans les confessions, va constituer un moment décisif dans l'histoire du christianisme qui se transforme peu à peu en catholicisme. Mais des usages multiples que l'histoire va faire d'Ambroise, on peut aussi avoir une lecture plus laïque. Augustin admirait chez Ambroise l'homme qui avait résisté à l'empereur pendant la semaine sainte de 386, armé seulement d'armes célestes. Champion de l'Église, Ambroise était alors devenu le protecteur de la liberté civique de Milan. C'est cela que dit encore son nom. Son souvenir est resté disponible pour ceux qui, notamment dans la Pars Populi, veulent soulever la tutelle des plus puissants qu'eux. Il a une réalité qui, au long des siècles, a augmenté grâce à la puissance propre de la remémoration.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Professeur au Collège de France depuis 2015, avant même ce livre collectif que vous avez animé, dont beaucoup de lecteurs ici se souviennent, au Salon du Livre de Paris, l'histoire mondiale de la France. Et là, vous revenez à vos études entreprises il y a fort longtemps sur Ambroise, la période de l'Antiquité tardive, et puis il faut parler de la période que vous connaissez encore mieux, celle du Moyen-Âge italien. J'ai dit, prenant l'antenne tout à l'heure avec Bruno Duvic, que nous sommes dans un climat de basilique.
Oui, hein, là vous avez bien ambiancé la chose, je vous remercie.
Je ne sais pas comment Ambroise se faisait entendre à partir du moment où il a été élu évêque en 374. Il avait pas de micro, il avait un ambon.
Oui, et d'ailleurs cet ambon, on le voit encore dans la basilique qui porte son nom, la basilique Sant'Ambrogio, qui est d'une certaine manière le cœur du dispositif monumental dont on a à parler. Et il voulait au fond faire de cette basilique, comme ce qu'on entend aujourd'hui, une caisse de résonance.
Et il parlait devant un pupitre, lequel reposait sur un sarcophage antique.
Et cette histoire, d'une certaine manière, dit déjà ce dont on devra parler, c'est-à-dire cette manière de s'appuyer sur le passé pour faire porter très haut une parole qui est une parole engagée. Parce que ce que Ambroise veut faire de son peuple, c'est, vous l'avez dit Jean, le mobiliser, mais aussi l'émouvoir, dans tous les sens du terme, le mettre en mouvement.
Le peuple qu'il a élu, les évêques sont élus, et c'est même pas un prêtre lui, c'est un magistrat riche, important.
Ah, mais la plupart, de toute façon, des fonctionnaires, et un évêque est le fonctionnaire, le dernier, au fond, peut-être, de cet empire romain chrétiens sont élus, la plupart des pouvoirs sont électifs au Moyen-Âge. Là, c'est particulier l'histoire dont on parle, parce que au fond, Ambroise est un grand de Rome. Son père était préfet des Gaules, il était né pour gouverner. Il va gouverner, effectivement, mais d'une autre manière. En étant évêque, il se fait élire, proclamer en 374. Il y a une belle histoire qu'on peut raconter, c'est que c'est un enfant qui crie son nom. Et criant son nom, Ambrosius devient Ambrosius Episcopus. Lui, il veut pas y aller.
C'est drôle parce que quand Benoît XVI a évoqué en audience générale l'histoire d'Ambroise, il n'a pas du tout raconté l'histoire de l'élection, ni même celle de la tentation du refus de l'élection. En revanche, le pape du XXIe siècle insiste beaucoup sur ce qui s'est passé pendant la Semaine Sainte de 386, donc 12 ans après l'élection d'Ambroise, l'empereur, parce que le pouvoir dans l'Empire romain d'Occident, il est là.
Il est là parce que Milan est une des capitales de l'Empire d'Occident.
L'empereur a l'étrange idée de vouloir distraire de la jurisprudence d'Ambroise une de ses basiliques pour la confier à des hérétiques.
Les Ariens. Et c'est une dispute des lieux, et là, on a un moment dramatique lors de la Semaine Sainte 386, où Ambroise et son peuple occupent la basilique que veut effectivement l'impératrice Justine veut lui soustraire.
Oui, l'impératrice Justine, c'est la Catherine de Médicis des hérétiques.
Voilà, ça c'est ce qu'on dit parce qu'elle a vraiment, elle a tout contre elle. C'est une femme, elle est hérétique, elle est autoritaire et contre elle, évidemment, Ambroise va faire tonner, va faire vibrer ses hymnes. On va en parler, mais d'une manière générale, va au fond inventer. Proprement inventé, parce que tout est affaire d'invention au sens médiéval, un pouvoir spécifique qui est le pouvoir de l'évêque qui dit non face au prince, face à l'empereur.
Alors, les armes spirituelles, les armes célestes, ce sont les chants, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va découvrir que vous êtes un disque jockey et un spécialiste de la musique inattendue.
Mais c'est une basilique assiégée. Faut comprendre la scène. Hein.
Mais alors, les murs peuvent être faits de reliques aussi, parce qu'il invente des reliques.
Ce qu'il raconte à sa sœur, parce que Ambroise, contrairement à Augustin, n'a pas écrit d'autobiographie, mais il a beaucoup correspondu, c'est que ce jour-là, eh bien, il est pris d'un pressentiment, il va fouiller sous la terre, et il va y trouver évidemment ce dont il a besoin, c'est-à-dire des reliques. Et ces reliques réarment d'une certaine manière les lieux. Et ce faisant, c'est très important du point de vue de l'invention des reliques, mais de l'occupation des sols et aussi de l'investissement des lieux, c'est que, au fond, il invente la cité chrétienne. C'est la première fois, au fond, où le passé des martyrs armé et mobilisé dans un combat politique. Évidemment, il rejoue le geste de Constantin à Rome, et il va faire des reliques Gervais et Protais, et bien justement ses plus fidèles alliés, c'est-à-dire sa garde rapprochée.
À l'époque dont on parle, et qui va se prolonger jusqu'au Moyen-Âge, il y a donc un plan divin d'occupation des sols, et vous étudiez les lieux monumentaux qui restent empreint du souvenir d'Ambroise, mais vous les étudiez pas comme des lieux de mémoire isolés les uns des autres, mais comme des endroits entre lesquels se dessinent des circulations, seraient des pèlerinages.
Une configuration, oui, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jean Lebrun, je suis historien de quelque chose, c'est d'abord de la ville au Moyen-Âge, et qui est d'une certaine manière, à ce moment-là, déjà configurée comme un circuit de mémoire. Et les basiliques paléochrétienne, elle forme une aura de sacralité autour de l'ancienne cité romaine. Ce sont ces protecteurs célestes, ce sont ces sentinelles au loin, et elle dessine au fond ce qui sera la géographie non seulement sacrée mais administrative de la ville. Donc là, il y a quelque chose de très concret, de très matériel.
Alors dans les basiliques et dans l'une d'entre elles, la sienne propre, Lambon, dont on parlait tout à l'heure, le tombeau, dont Pétrarque disait « À ce tombeau, il manque seule la voix ». Sauf que près du tombeau, il y a aussi le corpus textuel.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est un lieu, au fond, d'empilement et d'entassement. Tout est là à nouveau et de manière saisissante avec une présence que Pétrarque va voir. Parce que Ambroise va rejoindre Gervais et Protès, ces deux martyrs qu'il avait inventés, va les rejoindre dans la mort, va faire l'offrande eucharistique de son corps sous l'autel de Sant'Ambrogio, avec un reliquaire magnifique qu'on peut voir aujourd'hui, qui est l'autel d'or. Mais il n'y a pas seulement que son corps, il y a son corpus. C'est-à-dire qu'il y a tous les textes qui forment pour la première fois, par ces entrepreneurs de mémoire que sont les chanoines de Saint-Ambroise en 1140, ce qu'on appellerait aujourd'hui des œuvres complètes. Donc si vous allez à Milan, allez, c'est ce que disait Pétrarque, allez rendre visite à Ambroise, parce que vous avez son corps, vous avez ses textes et vous avez sa voix.
Au pire, vous avez le corpus de photos au milieu de votre livre, La trace et l'aura, je n'ai pas encore donné le titre. Les vies posthumes de Saint Ambroise, c'est aux éditions du Seuil. Alors vous parliez de la date de fabrication du tombeau, c'est au XIIe siècle aussi que le corpus des textes se constitue avec beaucoup de correspondances et puis aussi des textes dont voici l'un d'entre eux, des Penitentia. Ça va nous faire un petit peu, pour les auditeurs qui sont au loin, pas pour ceux qui sont auprès de vous au Salon du Livre, un moment de méditation silencieuse utile.
Très bien.
On chantait aussi quand Ambroise réunissait son peuple. Alors, il faut maintenant qu'on vous présente en musicien. On réentendra un instant, après vos explications, cet hymne qui fait partie des hymnes dont on est assuré qu'ils sont nés à l'époque de Saint-Ambroise.
Parce que c'est pas toujours le cas. Il y en a entre 12 et 14 qui sont assurément ambrosiens, c'est-à-dire qui ont été composé paroles et musique par l'évêque qui nous intéresse. Mais d'autres, au fond, sont dits ambrosiens parce qu'ils sont à la manière d'Ambroise. Et au fond, c'est ce dont on a parlé, c'est de la puissance d'un nom, vous l'avez dit. C'est pas simplement Ambroise auteur, mais c'est tout ce qui autorise le nom d'Ambroise. Et plein de gens vont écrire des hymnes à la manière d'Ambroise.
Alors, je vous savais pas spécialiste de liturgie.
Moi non plus, je me suis...
Mais vous avez lu beaucoup. La revue Mabillon, les textes bénédictins. Là, on entendait des chartreux qui chantaient l'hymne qu'on dit numéro 1. Eterne rerum conditor. C'est un chant...
Dans l'édition de Jacques Fontaine.
À l'éternel créateur du monde qui gouverne les nuits et les jours. C'est un chant que, chez les chartreux, on chante dans la matinée. On peut réentendre un petit peu du chant parce que vous allez nous expliquer que c'est un chant antiphonique.
Oui.
Expliquez-nous ça, Patrick Boucheron.
Parce qu'il y a deux manières de chanter. Soit, effectivement, il y a deux chœurs alternés, c'est le cas ici. Soit il y a un récitant qui, d'une certaine manière, se fait rappeler ce qu'on appellerait aujourd'hui un refrain. Là, c'est une mobilisation émotionnelle, c'est-à-dire que c'est tout le cœur qui chante, non pas à l'unisson, mais en psalmodiant effectivement une polyphonie. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, ce chant Carmen, c'est un hymne, mais c'est aussi d'une certaine manière une magie, c'est-à-dire que Ambroise enchante, envoûte son peuple.
Alors on va peut-être être sensible ici au Salon du Livre à Paris à cet enchantement. Alors Patrick Boucheron,
pourquoi ?
On a dit, c'est drôle, il est devenu un spécialiste de la musique, mais il y a un site qui s'appelle AOC qui a dit que vous étiez une sorte de DJ.
Oui, c'est Philippe Vasseur, en fait.
Il faut à ce point moderniser l'étude de
C'est une, un hommage d'un écrivain. Ça m'a fait très plaisir parce que, d'une certaine manière, oui, je n'ai pas choisi de m'intéresser à la liturgie, Jean Lebrun. En réalité, j'ai choisi, dans ce livre, La Trace et l'Aura, d'aller chercher aussi loin que possible, aussi loin que nécessaire, non seulement les usages politiques du souvenir d'Ambroise, mais ce qui le retenait, ce qui retenait le passé d'être manipulé par les pouvoirs. Alors, il y a les lieux, on vient d'en parler, il y a les textes, on vient aussi d'en parler, mais il y a aussi la liturgie. Et la liturgie, c'est d'une certaine manière aussi un lieu, au sens médiéval, c'est-à-dire c'est ce qui retient, ce qui nous empêche, au fond, d'oublier. Et voilà, bon, on dit... la liturgie ambrosienne s'autorise du nom d'Ambroise parce que lui-même a composé les hymnes. Et donc, mon projet n'était pas, dans une histoire régressive à partir du XVe siècle, d'aller jusqu'à Ambroise, mais par les hymnes, j'ai l'impression d'être tout près de lui.
Mais explicitons la comparaison de Philippe Vasset. Vous seriez un disque jockey qui enchaîne à toute vitesse sur sa platine de vieux 33 tours de soul, puis qui fait un max de rap en les samplant. Et c'est comme ça que on va maintenant voir la manière dont on rejoue le souvenir d'Ambroise tout au long du Moyen-Âge. Ça va être l'objet de notre deuxième partie.
Oui, parce que face à cette vie, je n'ai pas souhaité faire une biographie, mais au fond, une succession de vies posthumes. C'est-à-dire la manière dont, au fond, une existence se rappelle à notre souvenir. La façon dont des revenants vont, au nom d'Ambroise, au fond, hanter leur temps.
Alors, et des donc, revenants. L'histoire de Milan va être hantée de spectres d'Ambroise qui sont les cauchemars des empereurs et des tyrans et qui sont l'espoir des défenseurs de l'Église, de la liberté et de la commune.
C'est comme ça que je l'ai rencontré, Ambroise de Milan. C'est parce que je suis au départ un historien du XVe siècle milanais. Et à rebours, en 1447, au moment de ce qu'on appelle la République ambrosienne, au moment où donc les Milanais, qui se souviennent que en fait c'est la première commune, que c'est la plus ancienne et la plus puissante des villes d'Italie à avoir acquis l'autogouvernement, ils décident de se passer de prince.
Et là vous allez déjà au milieu du 15e parce que vous êtes dans votre zone de confort.
Mais vous voulez le 15e revenir en arrière ?
Oui, j'aimerais. On revient un peu en arrière, parce que ce qui se passe au milieu du 15e répète d'une certaine manière, à sa façon propre, ce qui s'est passé auparavant. Alors, on va commencer au 11e siècle. Les patarins.
Ce sont Ce sont des fanatiques de la réforme parce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'autogouvernement urbain, de la révolution communale, on pourrait dire en Italie que la commune est la poursuite de la réforme de l'Église par d'autres moyens. Et donc, ce qui est fondamental, c'est la réforme grégorienne. Et la réforme grégorienne, elle oppose, effectivement, elle sépare les clercs des laïcs. Et elle les sépare sur des choses essentielles, le sexe et l'argent. Et c'est à ce moment-là où on invente conjointement le célibat des prêtres et le mariage chrétien. Mais évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, et les patarins à Milan, au début au XIe siècle, sont les plus ardents défenseurs du célibat des prêtres et vont attaquer durement le clergé qui ne le respecte pas tout à fait. Et donc là, il y a une sorte de première commotion urbaine qui prend, disons, la religion comme expression, et c'est à celui qui sera le plus ambrosien. Voilà.
Vous racontez une scène tout à fait étonnante aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on vit peut-être cette fin de la réforme dite grégorienne, avec la séparation du clair, l'espace du sacré très délimité. Vous racontez que les patarins se saisissent des prêtres pour les obliger, entendons-nous ça correctement, au XXIe siècle, à faire serment de célibat.
Voilà, et donc ils veulent être effectivement encore plus réformateurs que le pape, ils veulent obliger les prêtres à changer de vie, et ils le font au nom d'Ambroise, qui a écrit sur la virginité, qui a écrit sur le statut du prêtre, et qui, en fait, globalement, a christianisé, disons, les vieilles vertus romaines. Donc, d'une certaine manière, là, il y a un premier rejeu. Comme vous le dites, il y a un premier rejeu.
Eh bien, alors, un deuxième rejeu, et il y en aurait beaucoup d'autres, un empereur, Frédéric Barberousse, nous sommes maintenant au milieu du XIIe siècle. En 1162, il veut s'emparer de Milan, il s'empare de Milan.
Il détruit Milan, en tout cas son enceinte, et les Milanais sont expulsés de leur propre ville. Et lorsqu'ils y reviennent, eh bien, ils commémorent d'une certaine manière. Là, on est en 1172, ils commémorent leur retour non seulement dans la ville, mais dans leur propre histoire, en exaltant une fois de plus Ambroise. Puisque Ambroise est toujours disponible dès qu'on a à s'attaquer à un empereur. Ambroise lui-même a défendu la liberté de l'Église face aux impératrices Justine et aux empereurs Théodose. Et au fond, cette liberté de l'Église, elle peut très bien se convertir en liberté politique de la commune. Donc là, on a une plasticité du souvenir qui permet, au fond, Ambroise est le nom que l'on prononce pour se donner du courage.
De quoi est le nom d'Ambroise ? C'est le titre de cette émission avec vous, en direct du Salon du Livre de Paris, Patrick Boucheron. C'est aussi, ou ça pourrait être aussi, le sous-titre de La Trace et de l'Aura, le livre que vous publiez aux éditions du Seuil. Alors ça y est, on en vient au XVe siècle maintenant. Bon, il n'y a plus d'empereur qui domine Milan, ce sont les membres d'une famille, les Visconti. Le dernier d'entre eux meurt claquemuré dans sa forteresse et sans héritier au milieu du XVe siècle. Et renaît la République d'Ambroise.
Une fois de plus, comme un spectre. Mais c'est d'ailleurs vraiment un spectre parce qu'il y a plein d'exemples où on le voit arriver en rêve ou dans le cauchemar des puissants, comme un fantôme qui vient armer le bras de celles et ceux qui veulent effectivement rétablir leur liberté. La République ambrosienne, c'est ce moment-là, c'est un moment de remémoration frénétique, et d'une certaine manière, pour moi, ça dit aussi des choses importantes sur ce que c'est qu'une croyance politique, c'est-à-dire la manière dont on va se bricoler dans le passé commun des références, des ressources de mobilisation pour ce, vous avez dit au début de l'émission, se soulever. C'est-à-dire c'est la puissance de soulèvement d'un passé très ancien qui revient pour redonner du courage.
Et il a quel aspect physique, là, 1000 ans après sa mort, Saint-Ambroise, il est à cheval ?
Alors, justement, c'est un empereur, c'est un évêque, mais qui est un fonctionnaire de l'Empire. Donc, c'est un combattant.
Donc, il est à cheval.
Donc, il est à cheval, et effectivement, il va revenir, en particulier dans le souvenir des seigneurs, de ces héros cavaliers, disait Georges Duby. Il va revenir à cheval.
Et il est barbu?
Alors, est-ce qu'il est barbu, est-ce qu'il n'est pas barbu? Ça, c'est une vraie question. Il a beaucoup changé d'allure au fur et à mesure du siècle. Au départ, c'est un jeune homme imberbe et romain. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, il commence à avoir la barbe imposante des pères de l'Église. Parce qu'on l'a pas dit, c'est quand même un des pères de l'Église.
Oui, oui. Et puis, c'est un des docteurs de l'Église, un des 4 docteurs latins, les premiers nommés par l'Église. Cette question de la barbe, c'est important parce que le dernier avatar de Saint-Ambroise, le dernier évêque de Milan qui lui ressemble et qui exerce à la fin du XVIe siècle, qui s'appelle Saint-Charles Borromée, il aurait voulu le rendre glabre.
Oui, il aurait vraiment voulu. Il détestait les barbus.
Saint-Charles Borromée, grand réformateur religieux, que voici dans une fiction de France Culture. C'est bien une fiction, dialoguant avec Gesualdo, le compositeur de musique qui appartenait à sa famille.
Monsieur le cardinal, mon oncle, vous travaillez trop. L'archevêché de Milan vous donne une multitude de soucis. Sans cesse vous visitez couvents et paroisses dans le dessein d'y faire revenir la discipline d'antan. Souvent vous êtes appelé par le pape. Quand vous reposerez-vous?
Carlo, un Borromée se doit d'être un soldat du Christ. Il y a tant à faire.
C'est vrai. Extirper le protestantisme de Haute-Italie, faire appliquer à la lettre les dispositions du Concile de Trente, agir au plus vite pour que les calvinistes, luthériens et autres chiens puants ne nous mordent pas, la vraie foi est en péril mortel. En tout cas, je vous admire. Comment trouvez-vous encore le temps, au milieu de ce tourbillon, de poser pour un peintre français, monsieur de Champaigne? Je vous le dis, mon oncle, un jour, vous serez canonisé.
L'imagination ne t'a jamais fait défaut.
Toute la question qui se pose à l'époque de Saint-Charles Borromée, c'est celle-ci, c'est celle de l'auréole.
Oui.
Alors ça y est, l'auréole vous enveloppe.
Ça y est.
Et vous ligote.
D'une certaine manière, pour lui, oui, il a tellement voulu être le dernier des nouveaux Ambroise. Mmh. C'est-à-dire non seulement celui qui va l'imiter, celui qui va s'encourager de son exemple, mais celui qui va proprement le recommencer, le refaire, le rejouer. Vous savez, c'est ça le christianisme. Le christianisme ne commémore pas, il rejoue. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas une, c'est pas une image. Ils sont Ambroise à nouveau. Ils recommencent. C'est Ambroise vivant. Et pour lui, tous les gestes d'Ambroise sont à recommencer. Pour lui, c'est-à-dire Charles Borromée à partir de 1560. Et tout ce dont on a parlé, Jean Lebrun, c'est-à-dire les reliques, les basiliques, les textes, la réforme liturgique, tout ça, Charles Borromée va le reprendre une dernière fois.
Auréole, aura. Il est temps que vous nous expliquiez le titre de ce livre, Patrick Boucheron, l'aura et la trace. Alors, l'aura, l'auréole, c'est l'apparition d'un lointain, le neveu est en face de son oncle, le cardinal. Le cardinal, il est très proche du neveu. L'aura, c'est l'apparition d'un lointain, quoique proche.
C'est ça. Et là, on parle effectivement d'une citation de Walter Benjamin que je retiens jusqu'à presque au bout. Et puis à la fin, je la livre. Et puis c'est
un lointain, quelque proche que puisse être celui qui l'évoque.
Et la trace, c'est l'inverse.
Alors attendez, la trace, c'est l'apparition de la proximité.
Mais oui, c'est le travail de l'historien, ça, que d'aller traquer les traces qui sont tout près de nous, mais qui nous renvoient à un passé lointain.
Mais la proximité, les traces dans Milan, les chemins de procession, l'ambon, l'autel, le tambo.
Bah, ils sont encore là, on peut les parcourir.
Très lointain dans le temps.
Justement, c'est ça une ville, c'est-à-dire c'est une mise en contemporanéité de passé ancien, disjoint, mais qu'on peut encore toucher. C'est le parti pris des choses, c'est ça qui m'intéresse tant dans l'histoire urbaine. Ça nous permet de dissiper l'aura des grands noms. Parce que moi, je ne veux pas me laisser dominer par des grands souvenirs, par des noms imposants. L'aura, c'est ça. L'aura, c'est cette manière, si vous voulez, d'en imposer avec son absence. C'est une manière, au fond, d'attirer en se retirant. Et c'est comme cela que Ambroise captait l'attention, rendait captif proprement son auditoire. En ne disant plus rien, par son silence.
Oui, parce que le tombeau pouvait être vide à la limite. Mais vous, c'est la pratique de la trace.
Bah pour moi, un historien, c'est ça. Une historienne, un historien, c'est quelqu'un qui part sur les traces du passé pour ne pas s'en laisser compter par les grands noms.
Et puis, parce que vous aimez les comparaisons modernes, j'ai fait celle avec le disque jockey, vous faites la comparaison avec l'ordinateur. Vous savez quand ? Dans un ordinateur, les fichiers ont été renommés.
Oui, le chemin est perdu. Rien ne s'oublie, mais tout se renomme, tout change de nom. Et au fond, il y a plein de gens qui n'aiment pas se souvenir d'Ambroise, et en particulier les princes. Alors ils vont le nommer différemment. Ils vont dire Saint-Georges, ou ils vont l'appeler de leur propre nom. Mais justement, ça revient. Ce que j'ai voulu écrire, Jean Lebrun, dans ce livre, La Trace et l'Aura, c'est au fond moins l'histoire des manipulations du souvenir que de la manière dont le passé, d'une certaine manière, ne passe pas.
Merci à vous, Patrick Boucheron. Nous étions depuis la porte de Versailles, où vous serez de nouveau dimanche avec Javier Cercas, parce que vous intéressez beaucoup à l'Espagne. Cette émission était préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco, avec à la technique Florent Layani, Benjamin Thuot, Gilles Manet, Rémi Gouriou assuraient la présence de Radio France au Salon du Livre et Audrey Ripouille la réalisation. Et c'est à Nice que vous retrouverez dans quelques instants en direct une émission Neuroplanète spéciale Mathieu Vidard.